accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Obe mia o, mille ron fa mi o. Obe mia nyaze to mille nya o fa o mucho.
Bonjour à tous. Pour la plupart des Français, les Alpes sont synonymes de ski, de soleil et de détente. Mais ces derniers mois, on peut aussi y croiser des migrants qui tentent par tous les moyens de gagner la France au péril de leur vie. C'est la quasi-fermeture de la frontière franco-italienne à Vintimille qui pousse ces migrants à prendre le train jusqu'à la petite station italienne de Bardonecchia. Leur périple se poursuit ensuite à pied avec un rempart à franchir, le col de l'Échelle, à 1762 mètres d'altitude avant de rejoindre Briançon. Depuis le début de l'année, 1500 personnes, pour la plupart originaires d'Afrique de l'Ouest, ont pris cette route. Le reportage d'Alice Posicky.
À Bardonecchia, passé 21h, les trains circulent encore, mais la gare est fermée jusqu'au lendemain matin. Dans les escaliers qui mènent au quai, une dizaine d'exilés allongés sur les marches essaient de trouver un peu de repos. Maoko Atissou est ivoirien. Plus tôt dans la journée, il a tenté de passer le col de l'Échelle, le dernier rempart avant la France. Des heures d'errance pour finalement rebrousser chemin après un contrôle de police.
Vous avez marché longtemps ?
Ah, on a marché. Ah, c'est pas 2 heures de temps, 3 heures de temps, c'est pas 4 heures de temps même. On a marché. 5h à 13h. Deux madans, si tu as fait un madan.
En haut des escaliers, 3 jeunes Français sortent de la nourriture et des vêtements de grands sacs. Ils font partie du collectif chez Marcel. En plus de la nourriture, Mathilde apporte aussi des conseils aux migrants sur la montagne et ses risques.
En fait, ils arrivent donc du sud de l'Italie où il fait chaud. Et il n'y en a pas un qui sait réellement ce qui les attend à partir de Bardonecchia jusqu'à Briançon. Ils sont pas du tout au courant du nombre du kilomètre qu'ils ont, des degrés qu'il fait là-haut, de l'altitude, etc., de la neige. On essaie de faire le maximum pour les sensibiliser et vraiment faire de la prévention quant au danger du froid et de la neige et de l'hiver qui y approche, en fait.
Vous avez déjà essayé de ce côté-là, ouais.
Okay. Ça, ici.
Ah, tu as un refus d'entrée, ouais.
Pour tenter d'empêcher l'arrivée de ces migrants en France, la présence des forces de l'ordre a été renforcée. Policiers, gendarmes et militaires patrouillent dans la montagne et sur la route. Depuis le mois d'août, ils ont contrôlé 1500 personnes. La plupart a été renvoyée en Italie.
Mais s'ils mettent la sirène des gyrophares, mais c'est énorme.
En revenant de Bardonecchia, sur la route qui descend du col de l'Échelle, Mathilde s'aperçoit qu'elle est suivie de près par une voiture de la gendarmerie. Elle est priée de s'arrêter.
Vous pouvez couper le moteur, s'il vous plaît ?
Oui.
Merci. Je vais vous donner les papiers du véhicule, ainsi que votre permis de conduire, s'il vous plaît.
Comment on est dans une zone proche des frontières ? Est-ce que vous auriez des passagers également une pièce d'identité, s'il vous plaît ?
Les gendarmes demandent à Mathilde d'ouvrir le coffre. À l'aide d'une lampe torche, ils vérifient qu'aucun migrant n'est présent à bord et finissent par laisser repartir le petit groupe.
Bon, bah, bonne soirée. Tournez tranquillement à Briançon.
Tranquillement, ouais.
Tranquillement.
Sans problème.
Mamadou Ba, lui, est parvenu à rejoindre la France au péril de sa vie. C'était au mois de mars 2016. Il a évité les gendarmes, bravé la neige pour arriver à Briançon, la grande ville la plus proche. Mais ce Malien de 28 ans n'est pas sorti indemne de la nuit qu'il a passée dans la montagne, prisonnier du froid avec un compagnon de route guinéen.
Vers la nuit 20h, on ne voit plus rien, on est glissé pour descendre la montagne. Du coup, on a glissé la neige jusqu'aux poitrines, on est resté dedans comme ça, on n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas à rien faire. Du coup, voilà, on est resté comme ça jusqu'à lendemain matin, dedans la neige jusqu'aux poitrines.
Au petit matin, les deux hommes ont réussi à s'extirper de la neige. Mais pour son compagnon, impossible d'avancer.
Il a essayé de mettre debout, il n'arrive pas. Il met debout, il tombe. Il met debout, il tombe. Il met debout, il tombe. Donc moi, j'étais debout, j'ai vu pieds gelés jusqu'aux genoux, je ne sentais rien de tout. J'ai dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Il m'a poussé, il a dit, Mamadou, laisse-moi. Il a sorti son numéro de sa mère, il m'a donné le numéro de sa mère. Il a dit, s'il te plaît, je vois que toi, tu as un peu de force. Si tu arriveras à sortir Mamadou, s'il te plaît, il appelle ma mère pour dire que je suis mort.
Ce jour-là, personne n'est mort. Mais Mamadou a perdu ses 2 pieds, amputés après plusieurs semaines de traitement. Quant à son compagnon, la montagne lui a pris ses 2 mains. Avec l'hiver déjà bien installé, les associations locales redoutent de nouveaux drames. Car malgré la neige et le froid, une 20aine de migrants essayent chaque jour de traverser le redoutable col de l'Échelle.
Reportage d'Alice Posicky à la frontière franco-italienne, à retrouver ce mardi dans Grand Reportage sur RFI. frôlé le bug géant en Estonie. Une faille de sécurité a été détectée sur la moitié des cartes d'identité, soit 760 000 pour 1 300 000 habitants. Le problème a été repéré à temps, mais aurait pu conduire à des usurpations d'identité et bien plus encore, car dans ce pays, les cartes d'identité permettent d'effectuer de très nombreuses démarches. Tous les services en ligne ont d'ailleurs été suspendus en attendant le renouvellement du document. Un incident qui sonne comme un avertissement alors que les nouvelles technologies ont envahi le quotidien des Estoniens. Reportage de Marielle Vituro.
En Estonie, le pire ou presque a été évité de justesse. Dans ce pays, cette carte ne sert pas uniquement à prouver son identité. Munie d'une puce, elle est devenue indispensable. Elle permet d'acheter des médicaments, d'inscrire son enfant à l'école ou même de voter, puisqu'en Estonie, toutes les démarches se font sur le net. Non réparée, la faille sécuritaire aurait aussi pu conduire à des cas d'usurpation d'identité. Mais rien de tel ne s'est produit. Depuis début septembre, les bureaux de RIA, l'autorité publique de gestion des systèmes d'information, se sont transformés en centres de crise. La pression était forte sur les épaules de Marcus Arm, spécialiste de l'identité numérique à RIA, pour se réveiller de ce mauvais rêve.
Le problème concernait plus de la moitié de la population de l'Estonie. De 10 à 20 millions de transactions sont effectuées chaque mois grâce à cette carte d'identité numérique. Si nous avions dû suspendre la validité de la moitié des cartes d'identité, cela aurait signifié que la société estonienne s'arrêtait de fonctionner. Impossible de déclarer les impôts, de faire des virements bancaires, et les médecins, eux, ne pourraient plus avoir accès aux dossiers médicaux des patients.
Comme Art, jeune travailleur social, la société estonienne ne s'est pourtant pas inquiétée outre mesure. Les interrogations de tous étaient surtout d'ordre très pratique.
Quand j'ai entendu parler du problème, la première chose que je me suis dit, c'est « est-ce que ma carte est concernée par cette faille ?» Je dois reconnaître que je ne me suis pas trop soucié d'être potentiellement victime d'une usurpation d'identité. Je me suis surtout demandé combien de temps ça allait prendre pour faire renouveler ma carte.
Une attitude qui peut surprendre, mais qui s'explique facilement pour Thomas Padovani à la tête d'Adcash. Ce spécialiste des bannières publicitaires sur le net a créé sa société à Tallinn.
L'Estonie est née avec cette culture. J'ai deux cartes d'identité à puce avec des têtes de bébés dessus. Vous voyez, donc je sais d'avance que mes enfants ne se poseront pas la question de ces cartes à puce. Aujourd'hui, dans la carte à puce, il y a énormément de données, etc. Donc non, les Estoniens vivent avec ça et il est hors de question de toute façon de retourner en arrière.
Le coût de la crise n'est pas encore connu. Additionner toutes les heures supplémentaires effectuées va faire grimper la facture. Mais rien n'aurait été possible non plus sans l'implication du secteur privé. Les grands noms estoniens des nouvelles technologies n'aiment pas l'afficher, mais ils ont tous envoyé leurs meilleurs spécialistes pour résoudre la crise. À Ylemiste, à deux pas de l'aéroport, se trouvent les locaux de Nortal. Aider à résoudre ce problème était une question d'honneur pour Prit Alamäe, à la tête de cette société de logiciels.
Les infrastructures technologiques ne sont pas une création du gouvernement pour le gouvernement, mais au contraire, elles sont élaborées par la communauté et cette dernière est conduite par le gouvernement. Quand un problème survient, toute la communauté se mobilise. Nous procédons de la même manière avec notre concept de défense totale ou pour assurer la cyberdéfense du pays.
La crise est aujourd'hui réglée. Près de la moitié des Estoniens concernés ont renouvelé leur carte d'identité. La bataille se situe désormais sur le plan juridique. Pourquoi l'Estonie a-t-elle été avertie si tard de ce problème, connu dès le début de l'année 2017? De grandes compagnies technologiques internationales qui utilisent le même code que les Estoniens pour crypter les données l'ont été bien avant elles. La police a déposé plainte auprès du fournisseur.
Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Toutes les semaines, dans l'émission Digitalk sur Radio 1, Hans Lugas décrypte les nouvelles technologies. Pour lui, les Estoniens vont être forcés de se poser de nouvelles questions.
En Estonie, c'est une logique uniquement technologique qui a poussé au développement de tous nos services en ligne. Mais nous avons vraiment fait l'impasse sur tout l'aspect philosophique de cela. Quel est notre but en développant ces technologies? Que voulons-nous atteindre?
Pour l'instant, l'une des premières leçons à tirer de la crise, c'est qu'il va falloir multiplier les différents points d'accès aux services numériques pour ne pas dépendre uniquement de la carte d'identité. Les demandes d'identité mobile, c'est-à-dire des connexions effectuées aux services numériques via le téléphone portable, ont explosé.
Un Festival qui a bien du mal à se tenir en Russie, Art Doc Fest, événement incontournable consacré au cinéma documentaire en langue russe, dont la 11e édition s'est ouverte il y a 5 jours. Les films sont projetés à Moscou, Saint-Pétersbourg et Katerinbourg, sauf que le pouvoir a carrément interdit certaines projections. Correspondance d'Étienne Bouche.
La programmation d'Art Doc Fest, c'est chaque année une immersion dans la Russie contemporaine. Ses paysages, ses habitants du bout du monde, sa dureté et son humanité. Art Doc Fest, c'est le monde post-soviétique tel qu'il est, avec ses traumatismes et ses contradictions. Le festival est aussi politique. On y projette des films impossibles à voir ailleurs. Cette année, le film d'ouverture était à charge contre l'État russe. Il était consacré à Oleg Sentsov, réalisateur ukrainien purgeant une peine de 20 ans d'emprisonnement dans le Grand Nord russe pour terrorisme. Arrêté en Crimée en 2014, il est devenu un symbole de l'opposition à la politique menée par Moscou en Ukraine. Ces dernières années, la question de l'Ukraine a forcément pris une place importante dans la programmation. Le directeur du festival lui-même a réalisé un film très personnel, projeté l'année dernière, sur les conséquences du conflit sur les consciences. À Lviv, à Sébastopol et dans le Donbass, Vitali Mansky a filmé les fractures au sein de sa propre famille. Les discussions sur Skype s'engluent inévitablement dans la politique, les interlocuteurs s'affrontent et ne s'écoutent plus. Cette nouvelle édition du festival est particulièrement agitée. Elle reflète le climat délétère lié à la situation en Ukraine. À Moscou, deux films ont été déprogrammés sous la pression. Et ce dimanche, des militants nationalistes et partisans des séparatistes du Donbass ont perturbé la projection d'un film en compétition. Pour contourner ces difficultés, le festival diffuse certains films en accès libre sur Internet. Sur le site de l'événement, les organisateurs expliquent le sens de leur démarche. Si nous renonçons à notre liberté, Art Doc Fest n'a plus de raison d'être.
Boîte noire, c'est paradis fiscaux, caverne d'Ali Baba, de l'évasion fiscale.
Depuis une dizaine d'années, les plus grandes banques internationales sont impliquées dans de multiples scandales. Un nom incarne les excès de cette finance hors la loi, HSBC.
Blanchiment, fraude fiscale, corruption, manipulation des cours. Depuis la crise de 2008, la banque britannique HSBC est au cœur de tous les scandales. 5 ans après leur film sur Goldman Sachs, Jérôme Fritel et Marc Roche passent au crible cet empire financier au-dessus des lois. HSBC, les gangsters de la finance, c'est le titre du documentaire à visionner dès ce mardi sur Arte. Au micro de Catherine Roland, Jérôme Fritel rappelle d'abord les origines sulfureuses de cette banque.
C'est vrai que l'histoire d'HSBC est éminemment romanesque. Elle a été créée en même temps que Hong Kong, au moment de la première guerre de l'opium, livrée par les Britanniques contre les Chinois. Alors il s'agissait de quoi ? Il s'agissait de commerçants, dont la plupart étaient écossais, qui souhaitaient inonder la Chine d'opium. Donc l'opium venait d'Inde, était transporté jusqu'à Hong Kong par bateau et après vendu aux Chinois. Les Chinois, au bout d'un moment, ont trouvé que c'était assez dangereux comme commerce et en plus, ça leur coûtait beaucoup d'argent. Donc ils ont décidé de l'interdire. Les Britanniques n'ont pas été d'accord. Ils ont envoyé leur flotte militaire, ont conquis quelques ports le long de la côte chinoise, ont obtenu en guise de butin pour leur victoire le port de Hong Kong. Là, ils avaient besoin d'une banque pour financer leur offensive commerciale. Ils ont créé la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. C'était il y a plus de 150 ans. C'est la HSBC qu'on connaît, qui a des agences à chaque coin de rue.
HSBC, donc énorme banque, qui est devenue un acteur incontournable des relations commerciales entre la Chine et l'Occident.
Certaines personnes que nous avons rencontrées lors de cette enquête nous affirment que la mondialisation économique n'aura pas pu être possible sans une banque comme HSBC, qui permet aux entreprises chinoises de commercer avec l'Occident ou avec tout autre continent, et aux entreprises occidentales ou sud-américaines ou africaines de commercer avec la Chine. C'est une banque tentaculaire. Quand on regarde les actifs dont elle dispose, si HSBC était un pays, elle serait la 5e puissance économique du monde.
C'est un acteur aussi qui ne s'embarrasse d'aucune règle.
HSBC n'est pas très regardante quant à l'origine des fonds qui sont déposés chez elle et qu'elle fait fructifier. Elle est présente dans tous les mauvais coups depuis 10 ans, soit seule. Et on se souvient du scandale SwissLeaks, une évasion fiscale à échelle industrielle à destination de la Suisse. Elle est chef de file au niveau du scandale des Panama Papers. C'est elle qui a créé le plus de sociétés écrans via Hong Kong basées au Panama. Elle est aussi uniquement présente, et encore une fois, dans des activités criminelles pour blanchir l'argent des cartels de la drogue mexicains aux États-Unis sur plus d'un milliard de dollars, sur une dizaine d'années, un comportement vraiment de voyou. Et puis aussi, elle fait partie, avec les autres banques, de tous les scandales financiers, alors un peu plus techniques, c'est le scandale du LIBOR. Alors le LIBOR, c'est le taux d'intérêt auquel les banques se prêtent entre elles. Alors, ils avaient magouillé là-dedans, le marché des devises, son responsable du trading Monde est actuellement en procès à New York. Enfin, elle est partout, elle a aussi blanchi l'argent de la mafia russe, et à chaque fois, elle passe entre les mailles du filet.
Et alors, ce qu'on constate, à travers ce documentaire, et à travers notamment George Osborne, qui a été ministre sous le gouvernement Cameron, c'est que finalement, le royaume est au service de la banque.
La banque fait partie des bijoux de la couronne. La banque, c'est ce qui reste de l'empire victorien perdu. Au moment de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, en 97, donc quelques années avant, HSBC s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à Hong Kong? Notre siège. Mais si on reste à Hong Kong, on passe sous la coupe chinoise, sous la loi chinoise. Ou alors, est-ce qu'on rapatrie notre siège en Grande-Bretagne? Finalement, ils ont décidé de couper la poire en deux. Ils ont rapatrié leur siège en Grande-Bretagne, donc officiellement ils dépendent du régulateur britannique, mais ils continuent à faire trois quarts de leurs profits en Asie. Et quand le régulateur britannique se fait un peu trop pressant, ils disent « Attention, si vous nous embêtez, nous, on rapatrie notre siège à Hong Kong ». Vu que HSBC pèse 20 000 emplois au minimum en Grande-Bretagne, tous les gouvernements disent « Non, vous inquiétez pas, on va pas vous embêter ». Et effectivement, on se rend compte que HSBC n'est absolument pas régulé et peut faire ce qu'il veut. Et il n'y a eu aucune enquête diligentée contre elle en Grande-Bretagne, alors que certaines justices nationales, je pense à la France, à la Belgique, à la Suisse ou aux États-Unis, ont essayé quand même de faire quelque chose au niveau de la justice.
Oui, mais vous allez même plus loin, parce que ce qu'on voit, et les images qu'on voit notamment de George Osborne, qui se fait quasiment l'avocat de HSBC aux États-Unis quand les États-Unis tentent d'inquiéter la banque.
Alors Osborne a défendu la banque personnellement. Quand la banque est inculpée aux États-Unis pour cette histoire de blanchiment d'argent de la drogue, Osborne écrit une lettre au président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, et lui dit « Attention, si vous retirez la licence bancaire américaine, c'est-à-dire le fait de commercer en dollars à HSBC, vous risquez de déstabiliser le système financier international. » Et effectivement, les autorités américaines se sont dit « Oui, on est quelques années après la crise, on veut pas prendre de risques, donc on va juste condamner HSBC à une amende, 2 milliards, un mois de profit, c'est pas grand-chose. »
Est-ce qu'on peut dire finalement, selon l'expression consacrée, que HSBC c'est une banque « too big to fail » aujourd'hui et qu'elle va rester impunie?
C'est plus que ça. On connaissait les banques « too big to fail ». Ça, 2007, 2008, juste après la crise. HSBC a inauguré un nouveau statut. Elle est devenue une banque too big to jail. Trop grosse pour être emprisonnée, c'est-à-dire au-dessus des lois. C'est-à-dire qu'on entérine le fait que quand vous êtes très riche, très puissant, très influent, eh bien on va aménager une sorte de justice pour vous, parce qu'on n'est pas assez fort pour vous condamner. J'ai pu rencontrer le procureur général de Genève, qui s'est retrouvé face à HSBC. Il me dit « Mais moi, je veux bien consacrer 3 ans à poursuivre cette banque. Je vais mettre mes meilleurs substituts de procureurs, mes meilleurs enquêteurs. On n'est pas sûr du résultat. Ça va coûter un fric fou. En face de nous, on aura des avocats payés 2 000 $, les meilleurs avocats du monde, qui peuvent bosser pendant 4 ans. Il y a une disproportion de moyens, donc on préfère négocier, arriver à une amende. » Alors eux, les Suisses, ça relève du pourboire, c'est 40 millions d'euros. Hein. La France, c'est 300 millions. Les Américains, c'est 2 milliards. Le parquet national belge est en train de négocier actuellement. On verra à quelle somme ils aboutissent. Mais c'est vrai que HSBC a inauguré ce statut du too big to jail au-dessus des lois.
Jérôme Fritel au micro de Catherine Roland. Jérémy Besset a réalisé mise en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 12h41.